Cet après-midi, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 pour une lecture du verset 1er jusqu'au verset 13. Et c'est là un passage que beaucoup d'entre vous connaissez bien. Il est question ici de la tentation de Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Et nous relisons ce texte. Nous sommes donc au tout début du ministère de Jésus. Et Jésus, plein du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Jésus a participé pleinement à notre nature humaine. C'est ce que nous disions encore ces derniers dimanches. Jésus fut pleinement homme et pleinement Dieu, et il l'est encore. Et pour que sa participation à notre nature humaine, à notre condition humaine, soit complète, il fallait aussi qu'il soit tenté en toutes choses comme nous. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Il en est alors beaucoup qui se posent la question de savoir... Mais quelle nature en lui fut donc tentée ? La nature humaine ou la nature divine ? Et laquelle de ces deux natures a répondu à la tentation ? Alors bien sûr, nous excluons d'emblée la nature divine, car Dieu ne peut être tenté. Et le diable n'a pas pu tenter Jésus dans sa nature divine. C'est impossible. Mais je voudrais vous montrer à travers ce texte comment, sur deux plans, le diable a éprouvé Jésus au tout début de son ministère. D'abord, il l'a éprouvé sur le plan humain. Et nous verrons que, particulièrement, le diable a tenté Jésus sur le fait de savoir s'il partagerait véritablement jusqu'au bout notre condition humaine. Rappelons-nous, le Fils est Dieu de toute éternité. Et pour lui, consentir à l'incarnation, c'était une humiliation. Jusqu'où accepterait-il les limitations de notre nature humaine ? Et le deuxième plan sur lequel le diable a tenté Jésus, non, ce n'est pas la nature divine, mais c'est sur le ministère de Jésus. Autrement dit, sa messianité. Le diable voulait savoir quel type de messie serait Jésus. Et les réponses que Jésus donnerait au diable, plutôt qu'il a données, nous en disent long sur ce qu'il fut dans son ministère. Ne nous trompons pas. Nous pouvons être conduits par le Seigneur, loin de son esprit, et être tentés par le diable. Il s'avère même que dans le cadre du service de Dieu, il existe des tentations tout à fait particulières, car le diable cherche à disqualifier les serviteurs du Seigneur. Il cherche à les leurrer, à les tromper sur deux plans, comme pour Jésus, quant à notre nature humaine, à notre communion, à notre besoin, à nos besoins corporels et à notre caractère. Le diable cherche à nous disqualifier dans le service de Dieu par rapport à notre caractère, mais aussi quant à notre ministère, à notre service, à la manière dont nous allons administrer, gérer le don, les dons que le Seigneur nous a confiés. Alors tout d'abord, à titre de précision et d'enseignement, rappelons-nous ce que veut dire qu'être tenté. Tant dans le grec que dans l'hébreu, Il existe un verbe, un seul verbe, pour traduire deux idées en français, ou plutôt qui se traduisent de deux manières en français. Tenter peut avoir le sens de leurrer. Tenter peut avoir le sens de mettre à l'épreuve, d'éprouver. Dieu n'est pas celui qui nous leurre. Car si le Seigneur peut permettre des épreuves dans notre vie, jamais ces épreuves nous pousseront au péché. Dieu permet des épreuves dans notre vie afin que nous puissions progresser dans la foi. Parce qu'au sein même des épreuves que Dieu permet, il y a des ressources, il y a des provisions divines à découvrir. Quant au diable, ces épreuves sont toujours des mensonges, sont toujours des tromperies, parce qu'il n'a qu'un but, détruire et faire le mal. Si nous en venons maintenant à ce texte et aux trois tentations que nous rencontrons, nous allons voir que, au-delà du pain, des royaumes, du haut du temple, il y a des choses beaucoup plus profondes qui concernent toute la vie, le ministère du Seigneur et qui nous parlent à nous-mêmes. La première de ces tentations est celle donc du pain. Mais au-delà du pain et du fait de transformer des pierres en pain, ce que le diable visait à ce moment-là, c'était la participation de Jésus à notre humanité. Jésus avait faim après 40 jours de jeûne. Et le diable intervient à ce moment-là. Et il veut tester sa réelle humanité. Et toi, dont on dit que tu es le Fils de Dieu, vas-tu être réellement un homme jusqu'au bout ? Vas-tu accepter de souffrir la faim jusqu'au bout ? Ou pourquoi n'utiliserais-tu pas ta puissance pour transformer cette pierre en pain ? Mais Jésus n'a pas voulu céder, parce que le Seigneur était résolu à partager les limites et les souffrances de notre condition humaine jusqu'au bout. Et c'était nécessaire au salut. Si Jésus, ce jour-là, avait accepté de se transformer en faiseur de miracles et en transformant la pierre en pain, ce qu'il pouvait faire, évidemment, il n'aurait plus été un homme. Il n'aurait pas été pleinement un homme. Mais alors, si, quand il aurait eu faim, il avait transformé la pierre en pain, que se serait-il passé dans le jardin du Gethsémané ? Aurait-il accepté de boire la coupe ? Aurait-il ensuite accepté le clou et l'épine ? Jésus a participé à notre humanité jusqu'au bout. Il a eu faim, il a été fatigué, mais il a souffert aussi dans le jardin et jusqu'à la croix du Golgotha. Il n'a pas voulu utiliser cette puissance qui est la sienne pour se sortir de cette limitation. Il n'a pas voulu être un faiseur de miracles. Il n'a pas voulu détourner la parole de Dieu. Si vous regardez dans la Bible, dans votre texte, le diable va lui dire au verset 3, « Ordonne, ordonne à cette pierre. » Mais derrière le verbe « ordonner », vous l'avez peut-être dans certaines de vos traductions, c'est le verbe « dire ». Or, dire nous ramène à la parole créatrice de Dieu. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, les choses s'accomplissent. Autrement dit, le diable voulait pousser Jésus à utiliser à son profit la parole créatrice de Dieu. Autrement dit, il voulait amener le Seigneur à détourner la parole à son profit, à l'instrumentaliser pour son profit. Ça, Jésus pouvait l'accepter. Il n'a jamais utilisé la parole de Dieu pour son bien-être personnel. Mes frères et sœurs, prenons garde à certains enseignements qui sont répandus et très populaires dans beaucoup de milieux chrétiens, qui nous poussent dans ce sens à utiliser la parole de Dieu pour assouvir non pas nos besoins élémentaires, mais toutes nos passions. De ces enseignements qui nous dit « tu n'as qu'à dire, tu n'as qu'à ordonner et alors les choses arriveront ». Mais Jésus nous a montré que ce n'est pas là le chemin. Et nous ne devons pas aller sur cette route, car elle est très dangereuse. Jésus nous a montré aussi qu'il ne voulait pas céder au matérialisme. Bien sûr, il n'était question que d'un bout de pain, et il avait faim, et c'était là des besoins légitimes. Mais malgré tout, le Seigneur n'a pas voulu se laisser embarquer dans cette direction. Et il va répondre au diable, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et nous connaissons la suite, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Jésus reconnaît nos besoins légitimes. Et dans la prière du Notre Père, il demande au Père de nous donner notre pain quotidien. Mais ce que le Seigneur rappelle au diable, c'est qu'il y a une nourriture bien plus grande et bien plus importante que le pain de cette terre, la nourriture qui vient du Seigneur. Et ce que Jésus veut lui montrer aussi, c'est que le lien qui l'unit au Père est un lien de confiance. Il n'utilise pas le Père, mais il se confie dans le Père, qui pourvoira à tous ses besoins. Amen. Alors, rappelons-nous de cette première tentation. Le diable a essayé de disqualifier Jésus par rapport à sa nature humaine. La seconde tentation, elle a lieu par rapport à son ministère, à sa mission. Une des attentes à l'époque de Jésus dans le peuple d'Israël était celle du royaume d'Israël. Rappelez-vous les disciples, alors que Jésus s'en va au ciel, il lui pose encore cette question. Quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il y avait donc une grande attente par rapport à un Messie libérateur, un Messie politique, qui libérait Israël de toutes les nations païennes qui l'opprimaient. Et le diable, après l'avoir donc tenté par rapport à sa condition humaine, va maintenant lui montrer une autre voie pour accomplir son ministère. Ce n'est plus au niveau des besoins du corps qu'il le tente, nous allons le voir, mais c'est au niveau de l'âme, au niveau de son intelligence, de son raisonnement, de ses buts. Qu'a fait le diable? Il est dit qu'il l'éleva sur une haute montagne. Matthieu accentue le trait encore en disant sur une très haute montagne. Ça nous rappelle lorsque le Seigneur a conduit Moïse sur le sommet des montagnes du Pisga qui dominait la vallée du Jourdain et en un instant lui a montré tout Canaan. Et le diable, dont on dit qu'il singe le Seigneur, a voulu faire pareil. Imitant Dieu, il a conduit Jésus sur une très haute montagne pour lui montrer tous les royaumes de la terre et lui faire cette promesse qui n'est qu'une tromperie et un leurre. Si tu t'inclines devant moi, tu vois toute la puissance et la gloire de ces royaumes sont pour toi. Mais bien sûr, ce qu'il cherchait, c'était à corrompre Jésus et à le détourner de son but et de son ministère. Mais Jésus n'a pas cédé. À vrai dire, le diable n'avait rien compris à la mission de Jésus. Vous savez, le diable certes connaît les Écritures, mais sa compréhension des Écritures est très limitée. Savez-vous pourquoi? Parce que pour comprendre les Écritures, il faut le Saint-Esprit. Et le diable n'a pas le Saint-Esprit. Et il ne comprend pas ce qu'il lit. Mais pour lui, quand il voit Jésus comme le Messie, il le voit comme une espèce de grand despote universel. Alors, quelle est la chose qu'il lui montre? Il lui montre tous les royaumes de la terre en un instant. Et c'est vrai qu'ils devaient être fabuleux, tous ces royaumes, avec tous leurs trésors, toutes leurs armées, toute leur puissance. Seulement, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Jésus n'est pas venu pour combattre pour les royaumes de la terre. Son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume, c'est le royaume des cieux. Et ça, le diable ne pouvait pas lui donner. Et finalement, ça n'intéresse pas Jésus, ce royaume-là. Ce qu'il veut, c'est le royaume de Dieu, que seul le Père peut lui donner. Le diable avait faux. Mais malgré tout, il a tenté le Seigneur pour essayer de le détourner de sa mission, en lui présentant toute cette gloire. C'est un peu comme lorsqu'il disait « Ah, Adam et Ève, vous serez comme des dieux ». Et là, il lui dit « Bien, tu vois, avec tous ces royaumes, tu seras un peu comme le véritable Messie ». Mais c'était faux. Mais Jésus ne s'est pas laissé attraper. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Où est votre trésor? Où est votre royaume? Le diable peut chercher à nous élever. Et il cherche souvent à nous élever. Parce qu'en nous élevant, vous savez ce qui se passe? Nous voyons des choses que nous ne voyons pas avant. Montez donc au sommet de la tour Montparnasse et vous découvrirez Paris sous de nouveaux angles et des choses que vous n'avez vues pas avant. Vous verrez toute la beauté de Paris, tous ses bâtiments, tous ses monuments, et vous serez certainement ébloui. Et le diable pensait que Jésus serait ébloui par tout cela. Prenons garde que lui aussi ne tente, n'essaye de nous placer sur une haute montagne pour nous faire voir des choses que nous n'avons pas vues jusqu'à présent. Mais ce qu'il désire, c'est quoi? C'est de nous amener à ne plus regarder au royaume de Dieu, pour regarder aux richesses éphémères de la terre. Rappelez-vous Moïse. Moïse n'a pas regardé à toutes les richesses de l'Égypte, mais il avait les yeux fixés sur la rémunération que Dieu gardait en réserve pour lui. Faites attention aux ascenseurs. Le diable peut nous élever, les hommes peuvent nous élever. Que ce soit dans ce monde, professionnellement, socialement, et parfois même dans l'Église. Mais être élevé n'est jamais une bonne chose. L'élévateur, ou plutôt, ça sera mieux en français, l'ascenseur, nous perturbe plus qu'il nous rend service. Et il vaut mieux prendre le temps de monter la montagne et de savoir donc quelle est la valeur de chaque pas, plutôt que de vouloir être élevé. Et vous savez, quand on est élevé trop vite, on perd un peu pied. Et c'est alors que les choses se brouillent. Prenez garde. Vous savez bien, des frères et sœurs, un jour ont été élevés. Et si ce n'est pas Dieu qui les a élevés, ils ont perdu pied. Ils ont eu comme un vertige. Ils ont été comme éblouis par les promesses du monde, oubliant les promesses du royaume de Dieu. Et à cause de cela, ils ont dit oui. Peut-être n'ont-ils pas eu la conscience qu'ils allaient adorer le diable, mais en cédant à l'élévation, ce n'est plus le Seigneur qu'ils servaient, mais c'était le diable lui-même qui les a emportés au loin de l'Église de Jésus-Christ. Quant à Jésus, ce n'est pas cette élévation qu'il est venu accomplir. Jésus ne cherchait pas à être élevé sur une montagne. Il a été élevé sur la croix. Ça, c'est l'élévation qu'il a cherchée. Et cette élévation-là ne consistait pas à dominer sur les hommes, mais elle consistait à attirer tous les hommes à lui. Et c'est donc avec des mains percées, c'est donc comme crucifié, qu'il rentrerait dans la gloire de Dieu. Amen. Jésus est donc demeuré intègre dans son âme devant Dieu. Il ne laissa pas ses sentiments, son intelligence être corrompus par les belles promesses qui ne sont que des tromperies du diable. Et ainsi, il a pu accomplir jusqu'au bout son ministère, jusqu'au bout les yeux fixés sur le Seigneur. La troisième tentation nous amène encore plus loin. La première concernait la condition humaine de Jésus. La deuxième concernait son ministère. Et la troisième concerne sa relation avec le Père. Et elle est beaucoup plus subtile, car elle s'appuyait sur des promesses divines. Et elle va toucher au niveau spirituel. Voyez-vous, quand Satan voit qu'il n'a pas accès à nos vies, à notre service, à travers le corps, quand nous disons non à cette tentation-là, quand nous disons non à l'élévation, qui ne peut rien pour corrompre notre âme, notre intégrité devant Dieu, il va chercher à tordre notre relation avec le Seigneur, il va chercher à nous attaquer spirituellement parlant. Et n'est-ce pas bien cette dimension spirituelle qui est là, présente, lorsque le diable conduit Jésus jusqu'à Jérusalem et qu'il va le placer sur le haut du temple? Voyez-vous la progression, le pain, le corps, les royaumes, tout ce qui a affaire à l'âme, la puissance et la gloire, et le temple, tout ce qui a affaire à l'esprit, au spirituel, aux choses qui nous unissent à Dieu. Qu'est-ce que le diable cherche? Il cherche à détruire, à tordre la relation du Fils avec son Père. Sur quoi cette relation est donc-elle basée? Elle est basée premièrement sur l'obéissance. Jésus s'est rendu obéissant à Dieu depuis le temps de son humiliation, son incarnation, jusqu'à sa mort et sa mort de la croix. Jésus a été obéissant. Et dans cette obéissance, il y avait aussi l'acceptation de la souffrance. Le ministère de Jésus a été marqué par la souffrance. L'homme de douleur, habitué à la souffrance, et il a accepté de souffrir pour l'expiation de nos péchés. Et si Jésus refusait à la fois l'obéissance et refusait la souffrance, il n'y avait plus de salut pour nous. Et c'est justement sur cela que le diable veut le tenter. Jusqu'où accepteras-tu de demeurer dans cette relation avec Dieu, toi, son fils? Alors il va lui mettre en avant un défi. Là, sur le haut du temple, là, dans la maison de ton père. Saisis-toi de sa parole et jette-toi en bas. Puisqu'il est dit que les anges viendront à ton secours. Puisqu'il est dit que les anges ne permettront même pas que ton pied heurte le rocher. Ils viendront te délivrer. Alors fais-le et manifeste ainsi ta gloire. Le diable est un menteur. Et c'est un tordeur de sens. Il voulait tordre la parole. Pourquoi faire ? Pour tordre la relation de Jésus avec Dieu. Ces paroles sont vraies, mais elles n'ont pas leur place là. Jésus n'est pas venu pour se produire comme ça, dans une espèce de gloire tout à fait théâtrale. Oh, je me jette du haut du temple. Il n'est pas venu pour éviter la souffrance, mais il est venu pour être humble et serviteur jusqu'au bout. Le diable voulait amener Jésus à provoquer Dieu, à agir envers lui comme lui l'entendait. Mais Jésus n'a pas voulu s'affranchir de cette relation d'obéissance envers son Père. Il n'a jamais cherché sa volonté, mais toujours la volonté du Père, jusqu'à accepter de boire la coupe amère. Mes frères et sœurs, écoutez bien ceci. Bien des hommes de Dieu, évangélistes, prophètes, docteurs, avec un ministère de puissance et de grâce, et j'ai des noms dans mon cœur, qui sont autant de souffrances aujourd'hui. Après avoir eu un ministère extraordinaire, après avoir accompli des choses merveilleuses, un jour, le diable les a placés sur le sommet du temple. Et il leur a dit « saute ». Et ces hommes de Dieu se croyaient tellement forts, tellement puissants. Ils pensaient que Dieu ne pouvait rien leur refuser. Qu'il ne pouvait rien leur arriver. Et ils ont écouté la voix du diable. Et ils ont sauté. Et quand on saute du temple, surtout si on saute de très haut, on s'écrase au sol. Ils se sont écrasés. Et l'Église en a souffert. Mais savez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand évangéliste, un grand prophète pour être placé au sommet du temple? Il se peut qu'un jour, peut-être même prochainement, le diable ne tente de vous placer encore une fois ou pour une fois sur le sommet du temple, vous, mes frères et sœurs et moi-même. En disant, hé, je te mets là, regarde, au sommet de ta relation avec Dieu. Regarde la parole de Dieu. Alors vas-y, n'aie pas peur, jette-toi. Regarde ce qui est écrit. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne permettra pas que tu souffres et tu auras du succès devant toi. Et ils se sont jetés. Jetés d'une manière inconsidérée. Peut-être parfois remettant en cause toute leur vie jusqu'à présent. En se disant, je vais m'engager, je vais tout abandonner. Et voyez-vous, ça pourrait sonner très chrétien. Mais quand c'est le diable qui en est à l'origine, ce n'est que tromperie et destruction. J'ai vu des jeunes gens être sautés du haut du temple avec des messages très sanctifiés. J'en ai connu un avec un bon métier, très sûr, nous dire du jour au lendemain, j'abandonne tout, j'abandonne mon métier, j'abandonne ma maison, j'abandonne l'église parce que je vais devenir évangéliste et aller sur les chemins de ce monde avec 2-3 personnes, nous allons évangéliser. Il n'y avait rien derrière, il n'y avait simplement que la tromperie du diable. et derrière la chute est difficile. Cette dernière tentation est aussi annonciatrice de l'épreuve finale de Jésus. Seulement, les hommes n'ont pas placé Jésus sur le haut du temple, ils l'ont placé sur le haut d'une croix. Et quand il était sur le haut de cette croix, ils l'ont provoqué aussi. « Hé ! Descends donc de ta croix ! Et si tu le fais, nous croirons en toi !» Jésus n'a pas accepté. Jésus n'a pas accepté. Mais il a accepté de souffrir et d'obéir jusqu'au bout. Et ses souffrances étaient terribles. Le clou qui transperçait ses mains, ses pieds, la couronne d'épines, c'était beaucoup plus que le fait de heurter la pierre avec son pied. Et alors j'imagine que dans le ciel, les anges qui connaissent parfaitement la parole, de se demander, mais pourquoi n'intervenons-nous pas ? Nous qui sommes prêts à le soutenir, il n'aurait qu'à se descendre de la croix et nous le retiendrons. Et les choses étaient comme suspendues, les anges n'ont pu intervenir parce que Jésus avait accepté de souffrir jusqu'au bout, telle était sa mission. Et que dire de ce sentiment d'abandon ? Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour la première fois, Jésus connaissait ce sentiment qui était terrible pour lui aussi. Alors qu'il est en train d'obéir et de souffrir, voilà qu'il connaît cet abandon de Dieu. Et autour de lui, ce ne sont que moqueries. S'il est le Christ de Dieu, qu'il se sauve lui-même. Mais face à tout cela, Jésus a refusé de descendre de la croix. Il ne s'est pas jeté de la croix comme il ne s'est pas jeté du temple. Mais il s'est contenté de dire, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jamais Jésus ne tenta Dieu. Il n'utilisa les promesses de son ministère pour sa propre gloire. Mes frères et sœurs, combien nous appartient de ne pas tordre les paroles de Dieu et d'être attentifs et de prendre garde. Le diable peut très bien nous placer au haut du temple afin de mieux nous précipiter en utilisant même la parole du Seigneur. Amen. Vous serez comme des dieux, avait dit Satan à Adam et Ève. Et c'est un peu ce qu'il a dit encore à Jésus. Tu peux être tout-puissant, tu peux être dominateur, tu peux être glorieux, tu peux ainsi t'imposer comme Messie, comme nouvel Adam, comme fils de Dieu. Mais Jésus ne s'est pas laissé impressionner par ces paroles. Il ne savait qu'il n'était que des leurres pour le disqualifier dans son ministère. Ce que le diable voulait, je le répète, à travers ces trois tentations, la première, c'était de le pousser à sortir de sa condition humaine. Jusqu'où accepteras-tu véritablement d'être un homme ? Seras-tu un homme quand tout va bien ? Ou accepteras-tu, Jésus, de souffrir comme ces hommes ? Pourquoi n'utiliserais donc tu pas ta puissance pour t'en sortir ? Et Jésus a dit non. Non. Je serai un homme jusqu'au bout. La deuxième tentation était d'éprouver Jésus quant à son ministère. Et le diable lui proposait une voie facile, un raccourci. En un instant, il était prêt à lui donner tous les royaumes de la terre, avec leur puissance et leur gloire. Le Seigneur a dit non. En quelque sorte, son royaume n'était pas de ce monde. Et le diable ne pouvait pas lui donner ce que seul le Père pouvait lui donner. Et la troisième tentation était donc de tordre, de briser la relation entre le Fils et le Père. Jésus, utilise la parole de ton Père. Pousse-le à agir pour toi. Jette-toi donc. Manifeste ta gloire devant tous les hommes, sans passer par la souffrance, puisque les anges te soutiendront. Jésus a dit non. Non. Mais il a souffert. Il a souffert dans le jardin du Gethsémané comme un homme à l'agonie. Il priait, il criait à Dieu et son sang a commencé à couler de ses tempes. Il a participé à notre humanité jusqu'au bout. Il a accepté de souffrir pour un royaume à venir. Il a accepté de souffrir pour nous donner le salut. Alors qu'on lui proposait la coupe de vin mêlée de fiel pour en quelque sorte l'étourdir, il a dit non. Alors que les hommes le pressaient de descendre de la croix, il s'est rendu sourd. Ésaïe dit : qui est sourd, qui est aveugle comme mon serviteur. Le cœur du Seigneur était avec le Père. Alors prenons garde à nous aussi. Et soyons conscients que le diable viendra nous trouver. D'autant plus que nous sommes en communion et dans les plans du Seigneur. Et ce qu'il cherche, c'est à nous disqualifier. À nous disqualifier dans notre relation avec Dieu. À nous disqualifier dans notre nature humaine. À nous disqualifier dans notre ministère. Pour que nous ne puissions pas accomplir les plans de Dieu. Et le diable essaiera de nous tenter, de nous leurrer. Résistons-lui en nous appuyant sur la parole. Et comme le dit l'apôtre Jacques, il fuira loin de nous. Prenez garde à l'élévation. Prenez garde aux grandes déclarations spirituelles. Je vous l'ai déjà dit, plus on met de spirituel en avant et des grandes déclarations, et plus derrière, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que du vide. Mais souvent, les appels les plus pressants, les plus puissants, s'expriment en quelques mots qui ne font qu'exprimer la foi en Dieu. Gloire à toi, Seigneur.